Jean Lebrun, le vif de l'histoire, les cinq candidats LR à la présidentielle, mais aussi Anne Hidalgo, seront demain à Colombey-les-Deux-Églises pour les 51 ans de la mort du général de Gaulle. Arnaud Montebourg appelle tous ceux qui ont en héritage la résistance et la France libre à y aller au cas où Éric Zemmour pourrait déclarer sa candidature. L'extrême droite tente de capter l'héritage de Gaulle après l'avoir combattu toute sa vie. Marine Le Pen sera dans la région de Bayeux, lieu de deux discours célèbres du général après-guerre. Bref, de Gaulle, centre de toutes les attentions demain, et Colombey en particulier. À propos de Colombey, Jean, il n'est pas inutile de lire ou relire le journal de l'aide de camp de Gaulle.
Il s'appelait Claude Guy, aviateur de la France libre. Il est entré dans sa fonction en juin 1944, au moment précis où le général pouvait enfin remettre pied sur le sol français, à Courcelles-sur-Mer, où Marine Le Pen entend, vous le disiez, se rendre cette semaine, pensant sans doute que sa présence y paraîtra moins incongrue qu'à Colombey. Claude Guy a partagé la vie politique et familiale du général et il a su le lancer dans d'innombrables conversations qu'il dirigeait très bien par ses questions et qu'il a transcrites quotidiennement. Son livre, En écoutant de Gaulle, est une source de premier ordre et qui plus est, il conduit systématiquement à une conception jamais médiocre de la politique. Il y a, je le cite, pas d'autre politique qui vaille que celle de la grandeur humaine.
Alors allons-y pour le thème de Colombey, qui pourrait paraître secondaire. Quand il est traité à la manière de Claude Guy, dites-vous, il n'est pas accessoire.
La propriété de Colombey a été dévastée par les Allemands. La famille de Gaulle peut s'y réinstaller au printemps 1946. Claude Guy observe le général se tenant le front contre la fenêtre, face au paysage immense et âpre. Le ciel est brillé. Le ciel est brouillé, pardon, dit-il. Eh, c'est bon pour la terre. Et de Gaulle comprend le souci premier que les paysans du village ont de cette terre. Voyez, Guy, quand leur curé fut passé à tabac pour avoir stigmatisé en chair les filles qui fréquentaient les Allemands, eh ben, le soir de ce petit drame local, leurs portes et leurs persiennes sont restées fermées. Ils ont plié sous l'occupant et c'était à cause de leur attachement à leur sol. Mais en février 1948, quand sa fille handicapée, la petite Anne de Gaulle, meurt brusquement, l'affection de tout Colombey entoure le couple de Gaulle. Et le général dit « Les vies, même les moins spectaculaires, les plus effacées de la campagne, ont leur utilité dans l'éternité. » Et Claude Guy le voit figé sur son fauteuil, les bras ballants sur les accoudoirs, dématé, les voiles affalées, puis de Gaulle se reprend. Il ne prononce jamais le mot de bonheur. Il y a beau temps qu'il n'y a plus pour moi de loisir, de distraction, observe-t-il. Cependant, à lire Claude Guy, il rit beaucoup plus souvent qu'il ne bougonne, mais d'un rire de défi, d'un rire qui le gagne jusqu'à l'hilarité. Et puis, ajoute Guy, il y a sa tendresse. Elle se manifeste dans son regard. Son visage serait désastreux sans ce regard. Peut-être l'aide de camp qui a le béguin du général y projette-t-il le goût que lui-même a des autres. Le général en a d'abord besoin pour affûter ses propres idées en les essayant sur eux.
Et Claude Guy tient ouvertement son journal jusqu'à écrire sur ses genoux devant le général dans la voiture qui les emmène de Colombey à Paris.
De Gaulle sait qu'il ne le publiera pas de son vivant et Guy ne le publiera pas davantage avant sa propre mort en 1992. C'était pas l'espèce d'un imperfite, hein, Claude Guy. Un imperfite qui attendait et obtint en effet tous les succès de l'édition parfaitement organisée de ses conversations avec De Gaulle. Guy avait entendu la leçon de Colombey. J'ai horreur des gens habiles. Alors, prenons un exemple. On entend aujourd'hui reparler, à propos de De Gaulle et de Pétain, de la vieille rengaine, du glaive et du bouclier. De Gaulle aurait été l'épée et Pétain aurait accepté le rôle de bouclier. Claude Guy apporte un témoignage décisif sur la fabrication de cette théorie accommodante. En 1947, le général demande un livre sur son compte au colonel Rémy, ancien chef de réseau résistant, monarchiste, passablement fantasque, mais qui n'est pas encore le dévot de Salazar, de Franco et de Pétain même qu'il va devenir. Dans son manuscrit, Rémy prête au général ce propos. Il fallait à la France deux cordes à son arc, la mienne et celle de Pétain. Guy indique que De Gaulle note de suite, en marge du manuscrit de Rémy, Scabreux, encore eût-il fallu que la corde Pétain s'oppose aux exactions de l'ennemi pour pouvoir jouer au profit du pays. Et le lendemain, De Gaulle dit à Guy « Le mieux, ça serait que Rémy supprime le passage sur la corde Pétain, ce serait mieux pour la France. » Comme quoi, plutôt que de citer à tort et à travers, mieux vaut se reportée, pour le général de Gaulle comme pour les autres, aux sources premières.
En écoutant de Gaulle, de Claude Guy a été publié la première fois chez Grasset en 1996. Merci Jean Lebrun.
France Inter.